RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Dans un monde où l'être humain se standardise, travailler à sa singularité s'assimile à du courage. » Et notre hôte peut clairement se targuer d'avoir le bon goût d'être original. Rappeur et chanteur, il travaille ardemment à son identité depuis des années. D'ailleurs, mon pote...
Viens du ciel ou des ténèbres.
Un peu des deux, je crois, n'est-ce pas? Artiste multiple et éclectique, il propose à chaque projet une immersion dans son monde qui passe aisément de Paris à la Tunisie, à Bali jusqu'à Dakar ou à Sydney, avec pour ligne directrice sa vie, ses ressentis, ses réflexions sociétales, humaines et souvent finalement spirituelles. Car ce franco... au style étudié, n'hésite jamais à mettre en exergue sincèrement ses préoccupations. Tel un livre ouvert, il nous fait part de ses
10 000 questions
existentielles, en assumant ses failles, comme lorsqu'il chante.
Moi, je suis déçu depuis tout petit.
Alors cet homme,
un peu blessé, un peu paranoïaque,
qui sait bien que utilise la musique comme exutoire en mettant par la même occasion son érudition au service de ses écritures. Et parlons-en de sa plume précise et poétique qui maîtrise avec brio l'art de la métaphore. Et je vous garantis qu'à ce niveau,
c'est du talent, c'est pas de la chance.
D'ailleurs, la Providence, il est allé l'arracher avec les dents, conscient que...
On paye pas facture en disant God bless.
Et que de là où il vient, il faut travailler...
10 fois plus pour avoir 10 fois moins.
Patient, il rappait il y a presque 10 ans.
Laisse-moi prendre mon temps.
Devenir quelqu'un. Faire les choses bien, doucement, mais sûrement. Objectif.
Pas de petits rêves que des gros chiffres.
Pour pouvoir un jour...
dépenser tant qu'un an.
Alors voilà, son talent, sa détermination, son assiduité et sa constance dans un game fait de haut et de bas, composé de...
ça va, ça vient.
Lui ont donné raison d'avoir persévéré en mode signé dorénavant dans le légendaire 92i, il démontre qu'au final
le temps remet chaque monde dans son cercle, le temps remet chaque roi sur son trône.
Ouais. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines à l'occasion de la sortie de son nouvel album Noura. Messieurs, dames, juste pour vous, le grand Husky Kutsa.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Elle s'appelle Kalina, la défauseur de la Tiena. Pour me rendre paro, elle est douée, elle est douée. Je compte plus les conseils et les coups de main que j'ai donnés. Pour rendre l'appareil, sont amnésiques, qu'on les connaît. 200 grammes, plus de neige qu'à Val d'Isère. Pleure-moi du pétrole, bébé, mais pleure pas des rivières. Ouvre pas la porte, bélé, car la faucheuse en TN. Bébé, mon cœur, c'est un labyrinthe. J'vois mal partout. J'emmène une grosse bitch à Uluwatu. J'dois tout whipping, tout remettre bout à bout. Si tu rends un coup, nous, c'est coup par coup. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant le dos? J'suis avec Nathalie, Natacha ou peut-être Hadija. Viens, approche la pouvoir. Les deux pieds dans le noir. Qu'est-ce qui ferait pas pour le pouvoir? Je sens même plus les doigts. Quelques rappels sur le boulevard.
Je m'en connaissais que la nuit.
J'vois mal partout. J'emmène une grosse bitch à Uluwatu. J'dois tout whipping, tout remettre bout à bout. Si tu rends un coup, nous c'est coup par coup. Qu'est-ce que tu peux faire main dans le dos?
Et moi je
qui est dans les studios de Légendes Urbaines. Husky, bienvenue chez toi. Bon retour.
Merci beaucoup. Merci.
Tu es déjà venu ici.
Ouais, je suis venu pour Ricard pour la série.
Exactement. Comment ça va?
Écoute, ça va. Hein. Top. Hein. On est à fond là.
Ouais.
On est à fond. On est sur la semaine de sortie. C'est que du plaisir, que du bonheur.
Mais tu mérites. Sacrée histoire. Et Noura, encore une fois, c'est quelque part la somme de toute ton histoire et de là d'où tu viens. Tu t'es beaucoup livré d'ailleurs dans cet album, encore plus qu'à l'habitude.
Ouais.
Et on a un rituel, comme tu le sais, on va commencer par le début. Tu es né à Paris, tu es cadet d'une fratrie de cinq enfants. Tu as été élevé dans un premier temps seul par ta maman. Qui est née en Tunisie, d'ailleurs, qui est arrivée adolescente en France. Ta maman a d'abord fait des ménages et puis ensuite, elle a ouvert un salon esthétique.
Exactement, ouais.
Quels sont les souvenirs de ton enfance à Paris?
Mon enfance à Paris, ouais. C'est vraiment la première partie de ma vie. C'est la Ligre, c'est un côté assez...
Les briques rouges,
c'est venu par la suite. Au début, c'était vraiment la Ligre, le côté populaire, le marché. Et puis moi, j'étais élevé, moi, mes frères, ils n'étaient pas très présents. Donc j'étais élevé avec mes mères, donc des femmes travailleuses, tu vois, qui essaient de s'en sortir. Mm-hmm. Et puis il y avait aussi mes oncles. En fait, on avait un espèce d'appartement. Il y avait beaucoup de gens. C'est de la vie, vraiment. C'est les souvenirs que j'ai. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie et beaucoup d'amour. Avec peu de choses, mais beaucoup d'amour.
Vous êtes fait expulser, vous avez fini à Porte Dorée, et en fait, tu étais assez jeune, donc tu as quand même vécu dans la précarité. Est-ce que ce sont aussi des moments qui te nourrissent jusqu'à aujourd'hui?
En fait, moi, cette période-là, ce qui était un peu particulier, c'est que ma mère, en fait, elle m'a un peu sauvé de tout ça, tu vois. C'est-à-dire que moi, du jour au lendemain, si tu veux, mon père, il a eu une opportunité de travail. Lui, il était serveur, tu vois. Il a eu une opportunité de travail en région Rhône-Alpes, tu vois, à la frontière de la Suisse, donc il est parti. Et ma mère, un matin, je me suis réveillé pour aller à l'école. Et en fait, j'ai foncé dans un train et je suis parti. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, si tu veux, j'ai changé de vie d'une manière drastique. Tu vois,
bah,
je me suis
retrouvé
en fait solo avec mon père d'un coup comme ça.
À la frontière suisse, c'est
ça ? Exactement. Je me suis retrouvé là-bas et c'était bien. Mais c'est juste que avec le recul aujourd'hui, et quand tu prends du recul sur ça, tu te dis...
C'est un peu brutal.
Ouais, c'est un tout petit peu brutal. Je suis passé du tout au tout comme ça d'un coup, tu vois. Et ça aussi, ça m'a nourri.
Ton papa est restaurateur, mais il aide aussi les personnes en situation de handicap.
Ouais, ça a été sa vie, ouais, pendant 10 ans. Mm-hmm. En fait, il travaillait dans un restaurant où il recrutait du personnel donc handicapé. Mais ça peut être handicapé parce que tu as eu un accident de voiture où tout le monde est mort. Parce que, tu vois, c'est différentes formes d'handicap. Et lui, son but, en fait, c'était de les réinsérer. Avec un travail entre guillemets normal, valide, tu vois. Donc il y avait toute une formation qu'il faisait, il a dédié sa vie à ça pendant 10 ans, tu vois.
Tu bossais même quand tu faisais tes études, t'as été bagagiste en Suisse.
Ouais, de ouf.
Tu portais aussi, tu travaillais dans la boucherie, tu portais des carcasses.
Non, j'ai travaillé dans...
des carcasses de viande, on m'a dit, s'il te plaît, raconte-nous.
Ouais, j'ai travaillé dans une boucherie, j'étais chauffeur-livreur. Mais ça, c'était des tafs que j'avais pour mes études, pour payer mes études, tu vois. J'ai fait ça, j'ai travaillé dans le bâtiment aussi, j'étais peintre en bâtiment. J'ai travaillé dans ce fameux restaurant avec du personnel handicapé aussi. J'ai plié des couvertures d'aéroports aussi, je les ai mis sous cellophane. J'ai travaillé dans une usine de L'Oréal où je mettais
des shampoings. Elles sont propres les couvertures ou pas?
Elles
On veut
propres.
Savoir,
Elles
est-ce
sont
qu'elles
propres.
Sont propres vraiment?
Ah bah, je t'assure qu'elles sont propres.
C'est une question que
je me
pose toujours.
Je les ai lavées, je les ai
pliées,
je les ai mis.
Des fois je me dis d'où ils remballent.
Non, franchement c'est bien fait. Leur système il est bien fait, mais j'ai fait tous ces tafs là et à côté des études, tu vois, donc j'ai connu tout ça, ouais, de fou.
Le paléo.
Ouais.
Ton père écoutait du rap,
ouais.
Le paléo. Pour les personnes qui nous suivent, c'est l'un des plus beaux festivals que je connaisse.
Ouais.
C'est en Suisse. Il est incroyable,
ouais, ce festival.
Je ne sais plus combien de centaines de milliers de personnes il réunit avec une programmation complètement internationale. C'est ça aussi la Suisse, c'est l'international.
Ouais.
Et c'est encore un autre mindset, la Suisse, par rapport à la France, justement, parce que ce pays est beaucoup plus ouvert sur le monde. Tu découvres NTM, IAM, comme tu dis, la FF. Et si je te fais écouter ce titre-là, tu me dis quoi?
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique. Voleur d'enfort au fond des criques.
Classique total.
Alain Bachung, ouais. La nuit je mens.
Classique, mon son préféré.
Ouais.
Ouais, mon titre préféré. Toute musique, toute catégorie confondue, tout ce que tu veux. Franchement, ce son pour moi, c'est
pour quelle raison?
Encore une fois, le texte déjà, le texte, la mélancolie qui s'en dégage, la nostalgie, l'interprétation de la voix, tout, j'aime tout. J'aime tout dans ce son, mais vraiment tout, tout, de A à Z, je pourrais l'écouter en boucle, il m'a jamais lassé. T'as vu, en ce moment, il y a un sentiment un peu de nostalgie, je trouve, chez les gens, on réécoute des choses qui nous ont... Et moi, je m'en rappelle de ça, quand je rentrais, mon père, il écoutait ça à fond et tout, franchement, ça me rappelle trop de choses aussi, tu vois. Ça me rappelle vraiment une bonne époque d'une relation que j'ai eue avec mon père. Tu vois ce que je veux dire, de vraiment, c'était une bonne époque, vraiment.
Tu fais tes études, ouais. Retour à Paris.
Ouais, retour à Paris, ouais.
Course de fond de fou malade. Mm. On parlait tout à l'heure de Mojo, je me souviens de ce freestyle de Demolition. Mm. Tu fais plein de taf. T'es community manager, tu fais de la communication, t'es chauffeur Uber.
Ouais, Hitch, ouais.
Hitch, pardon, chauffeur Hitch. Ouais. Et tu fais tes prods.
Ouais.
Et tu,
c'est vrai quand
et tu
dis
lâches
tout ça,
rien. Non, mais c'est vrai. Allez. Et tu lâches rien.
Quand tu dis tout ça, non, j'avoue, ouais, ça se passe comme ça, ouais. Je te jure, première mixtape Mojo, je suis chauffeur Hitch. Première mixtape Mojo pour la payer. Incroyable. Très, très lourd.
Mais c'est un délire, en fait, parce que quand t'es chauffeur Hitch et que tu tapes quand même plus d'1,5 million de vues, en fait, parce que ce Mojo, en plus,
ouais, ça avait tourné.
Ça avait bien tourné.
Ouais.
T'es dans des mondes parallèles, en fait.
T'es dans un monde parallèle, mais en même temps, tu sais, il faut se remettre dans un contexte où l'économie, elle n'était pas pareille aussi dans la musique. Tu vois, ça se lançait un peu sur le stream et tout. Mm-hmm. Et moi, j'étais dans un délire. Non, je veux faire mon truc. Je veux que ma mixtape, elle sorte sur Haute Culture gratuitement. Tu vois, j'avais signé un truc d'édition avec des mecs de Montreuil. Ils me disaient, mais il est perché, ce mec. Il est complètement fou. On est en train de lui dire qu'on peut avoir une distrib et tout. Mais tu sais, tu perçois pas à cette époque-là. Je dis, mais non, mais regarde, je veux que tout le monde y ait accès et tout, tu vois. Et je pensais pas que j'allais faire un parcours. En vrai, tu vois, moi je voulais prouver que, vas-y, j'arrive avec Husky, Mojo, tu vois. Et en fait, après, la vie, elle m'a entraîné dans des trucs de fou.
Qu'est-ce qui t'a fait tenir?
Ce qui m'a fait tenir, c'est parce que, y a toujours un truc qui te relance. Tu vois, c'est pas que des moments durs, tu vois, c'est important de le dire.
Bien sûr. J'ai vécu
des super moments, et puis il y a toujours un truc qui te relance, et puis il y a toujours un mec. Je pense que c'est ça, c'est le fait qu'il y a toujours eu. Pour Husky, une solution. Tu vois, j'ai toujours su trouver une solution. Quand c'était un peu plus down, j'ai écrit pour des gens. Quand c'était un peu plus up, j'ai focus sur Husky. J'ai trouvé des solutions, tu vois. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et je pense que c'est ça qui m'a fait tenir. Et le feu que j'ai en moi, tu vois. Je partage un feu, c'est le feu de ma mère même, je dirais, tu vois. Elle a ce truc-là, elle a un truc qui brûle à l'intérieur. C'est hallucinant, tu vois.
Le sang tunisien.
Mais ouais, je crois que c'est ça, en vrai.
Qu'est-ce que tu as de tunisien en toi?
Ce que j'ai de tunisien en moi.
50%, mais t'es 100% tunisien, 100% français en fait. Moi j'aime bien que les métis, on dit pas à 50-50. T'es 100% des deux, mais t'as même fait des clips là-bas.
Ouais, beaucoup.
Voilà. Qu'est-ce que tu as gardé, toi, de la culture en fait tunisienne?
La culture tunisienne Ouais, c'est plein de choses. Ça passe par l'éducation. Tu vois, pour moi, la place de la femme aussi, c'est très important. Tu vois, ce qui est très important dans la culture tunisienne depuis Bourguiba déjà, ouais. Tu vois. Donc, il y a tout un truc où moi, je mets la femme sur un piédestal, tu vois. Énormément, tu vois, parce que nous, on a beaucoup ce truc-là en Tunisie, ouais, tu vois, depuis des années qu'on l'a cultivé. Donc, il y a ça, il y a l'éducation, il y a l'envie de réussir, il y a un peu de vice aussi, je vais pas te mentir, tu vois. Le vice de Tunis, c'est connu, tu vois. On est connu aussi pour ce truc-là. Donc, c'est ça aussi, c'est savoir se débrouiller aussi, des fois, avec trois fois rien, tu vois, avoir des visions, tac, essayer de s'en sortir. C'est vraiment ce côté-là, tu vois, que mon père n'a pas forcément, mais que ma mère a, tu vois.
Qu'est-ce qu'elle t'a transmise comme valeur, ta maman ?
Valeur, c'est vraiment le respect, déjà avant tout. Ça, c'est vraiment valeur numéro un. Le respect, la détermination, ne jamais rien lâcher, la résilience. Voilà.
En parlant de résilience, et puisqu'on parle de ta maman et tu l'évoques dans l'album Noura, elle a des petits problèmes de santé, voire des gros problèmes de santé. Je me permets parce que tu m'as autorisé à en parler. Elle a un Alzheimer qui s'est déclaré.
Ouais.
Est-ce que tu as quelques mots à dire sur cette situation et sur... voilà, puisque tu en parles dans ta chanson, que malheureusement, c'est une maladie qui est tellement, tellement universelle. En fait, peut-être qu'il y a des gens au bout du monde qui vont se sentir concernés. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'on se sent tous concernés. Mais comment tu vis ce moment et puis finalement, comment t'en es arrivé à l'écrire en fait ? Parce qu'entre le vivre et l'écrire et accepter qu'on te pose des questions là-dessus, il y a quand même, tu vois, tout un cheminement.
Bah en fait, c'est elle qui a trouvé même le nom de l'album, tu vois, Noura. Parce qu'en fait, vu que ma mère, elle a Alzheimer, et en fait, moi, je sens que elle oublie de plus en plus de choses. Je sens la situation quand même un peu se détériorer. Donc moi, ce que je fais, c'est que maintenant, tu vois, je passe souvent chez ma mère et je prends une caméra VHS et je la filme en train de cuisiner, en train de... Et je la fais travailler aussi, tu vois, sur sa mémoire, sur les choses et tout. Et elle me raconte en fait une anecdote sur le fait qu'après moi, elle aurait dû avoir une fille qui s'appelait Noura et qu'elle a perdu. Elle me le balance comme ça dans un extrait qu'on a. D'ailleurs, on est en train de faire un doc un peu sur l'album et tout. Et j'ai ce moment-là, tu vois, qui est ouf. Et elle me balance le truc et après, j'en parle avec mes potes et après, on décide Noura et tout, tu vois. Donc même ça, ça vient d'elle. Tu vois. Et comment je le trouve, bah c'est ça, c'est parce que ouais, elle a atteint de cette maladie là et moi ce que ça provoque, si tu veux savoir ce que ça provoque chez moi, ça provoque un sentiment d'urgence qui est encore plus élevé que j'avais avant, bah d'essayer de la rendre fière et tout avant qu'elle oublie tout, tu vois. Parce que c'est ça, tu vois, parce que des fois j'en suis même à un stade où je me dis bah il y avait une phrase là que j'ai pas sortie dans l'album, je dis mais en gros même si je perce, elle oubliera tout, tu vois, je sais pas comment dire, donc vois ça c'est fort et en fait bah ça provoque encore plus d'urgence en moi et plus de rage encore, tu vois, mais dans le bon sens du terme, tu vois, donc voilà c'est ça là, mais ouais c'est une maladie c'est sévère quoi, c'est sévère hein, parce que c'est... ouais c'est
bah t'as l'épée d'Amonclès sur la tête
ouais,
en fait
exactement donc on suit avec des spécialistes, il faut travailler son cerveau, il faut faire plein d'exercices, il ne faut surtout pas se laisser ramollir, tu vois. Et on est là-dessus, là on est sur les premiers stades, mais moi je sens que, ouais c'est vrai que depuis un an maintenant, des fois il y a des rendez-vous, elle ne vient pas, tu sais, elle oublie vraiment, tu vois, il faut l'appeler, rappeler les choses et tout. Et ouais, c'est un truc un peu violent, moi j'envoie toute ma force à ceux qui traversent ça, parce que franchement c'est violent, de fou.
Eh bien, écoute, j'espère que voilà, ça va aller,
ça va le faire et qu'elle va se
maintenir ta petite maman et force à toutes les personnes qui vivent aussi
grande force
cette épreuve. En attendant, elle te voit quand même gagner. Il y a quelques années,
ouais.
Tu signes en édition. C'est pas le 9 d'ici, en édition chez le 9
ouais,
d'ici hein,
d'abord ouais.
Et ensuite tu signes en artiste. C'est quand
en
même
artiste.
Une sacrée réussite.
Ouais,
j'en place une pour Cop et pour Anne et toute la Dream Team. Il y a une armée en fait.
Toute l'équipe,
il y a une armée. Il y a vraiment une grosse équipe. ça, c'est un chamboulement en fait, finalement. Dans une vie quand même d'artiste, de dire ok, là je suis signé dans un gros label, tu sais que ça a de l'impact. Comment tu vis ça à l'époque ?
Je vis ça super bien parce que moi je suis sur le point de quasiment arrêter. On est post-Covid. Tu vois, j'avais fait beaucoup de choses avant le Covid, j'avais sorti 3 mixtapes, j'ai commencé à avoir un tourneur, il y a le Covid qui arrive, wow. tu vois. Je me remets à écrire aussi un peu pour des gens et tout. Et là, c'est vraiment Cop qui me tend la main. Simplement, qui me tend la main, qui me dit écoute, moi voilà, t'attends d'années de rap. Je pense que c'est bien si tu montes une boîte d'édition. On s'associe, on fait 50-50 sur la boîte avec Talak. Et derrière, vas-y, moi, si tu prépares un album à côté et que l'album il me plaît, vas-y, je te signe. Après le Stade de France de Cop, j'ai signé, tu vois. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui, à un moment, te tend la main sur un truc où personne l'a jamais fait, tu vois, à ce point-là. Parce que lui, il tend la main, mais il tend le bras, en fait. C'est pas que la main. C'est-à-dire qu'après, t'as tout un truc. Je le rencontre au Sénégal. Il m'emmène sur sa tournée africaine. Et je finis, je pars d'un truc où je devais arrêter. Je finis dans un stade complet à chanter un son avec lui. En l'espace d'une semaine, ça s'est passé. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça que tu vois, ça va vite. Et lui, il a ce pouvoir de pouvoir faire ces choses-là pour les gens. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en auraient le pouvoir, mais qui ne le font pas. Mm-hmm. Tu vois, ou qui ont le pouvoir et qui ne le font pas. Et lui, il le fait encore aujourd'hui, en 2025, quand on sait que pour qu'on te tende la main, il faut y aller fort. Quand même, on ne va pas se mentir. Donc moi, je le prends, mais de manière ouf. L'année 2023, c'est fou tout ce qui se passe, tu vois. Et je me dis, putain, go, enfin, tu vois, j'ai un vrai truc là sur lequel je peux me raccrocher, il va falloir que je bosse deux fois plus encore, tu vois. Donc c'était ouf.
Je te sais féru de psychologie. Tu mets tout ça dans ta musique ?
Ouais, de fou. Et même, je l'ai... tu sais, avant, il y avait un truc où je disais, j'avais pas de recul sur ma musique et j'avais déjà fait des interviews que, franchement, aujourd'hui, je dirais pas la même chose. Je disais... ouais, mais je pense que tu vois, ça a pas d'effet thérapeutique sur moi. En vrai, je pense que mettre tout ça sur papier, en fait, c'est juste le fait de ressasser des trucs. Et en fait, est-ce que ça a pas l'effet inverse et tout. Tu vois, je rentre dans un truc. Et en fait, avec le recul, totalement. Mais en fait, là, si j'avais pas eu ça, t'imagines tout ce que je dis, tout ce que je raconte, tout ce que je fais. Mais si j'avais pas eu ça, bien sûr que ça a été ma thérapie. Moi, je disais dans Anédonie, nos darons nous enlèvent l'œil avec le sel, donc on n'a jamais vu le psy. Et en fait, c'est réel. Des mecs de ma génération qui n'ont jamais vu un psy, il y en a énormément.
Mais évidemment.
Et nous, on a pris la musique comme une thérapie. On dit, on n'a pas peur d'être vulnérable, même si des fois ça peut mettre en danger, ça peut faire peur, tu vois, de faire tomber un peu la carapace sur certains titres, de trucs et tout. C'est des choses qui font parfois peur à certains. Ben moi, j'y vais à fond. Je m'en fous, en fait. Je vais l'inverse, tu vois. Je te dis quand je vais pas bien, je te dis quand je vais bien. Je te dis tout ça, en fait, tu vois. Et ça, c'est... on m'y parle l'honnêteté, tu vois. Et j'ai toujours essayé de rester dans ce fil, dans ce truc, de me livrer.
Compétiteur. Ouais, et du toujours. Coup, tu sais que c'est une émission collégiale et il y avait un grand compétiteur qui avait envie de te poser une question.
Bonjour à tous. Bonjour à toi, Juliette. Salut, Husky. Bah, écoute, déjà, félicitations pour ton travail de toutes ces années. Qui je pense commence à vraiment payer. En tout cas, de ces dernières années, de ces derniers mois, t'es je pense une de nos plus grosses découvertes musicales à moi et à mes frérots. Donc félicitations pour ça. Est-ce que dans ton écriture, dans ta préparation d'album, vu qu'il y a Noura qui sort vendredi, même dans tes shows, etc., est-ce que tu adoptes une approche sportive, une approche technique de haut niveau, de sportif de haut niveau, où vraiment rien n'est laissé au hasard, où tu peaufines vraiment tes textes, tes visuels, que tout ça est fait pour performer au maximum. En tout cas, voilà, je sais aussi que tu fais pas mal de sport. Je pense que tu as plus ou moins compris ma question. Voilà, grosse force à toi et c'était tout pour moi.
Ah, ça fait trop plaisir.
Morgan Charrière, grand champion.
Grand champion.
Grand champion, putain. UFC, poids plume. Champion de Cage Warrior en 2020. 32 combats, dont 20 victoires. Et bah voilà, entraînement, c'est un boss. Voilà. Ah ouais. Merci Morgan. Et merci Alexandre aussi pour cette vidéo.
Incroyable.
Est-ce que.
Quel champion.
Être un artiste qui réussit, un rappeur qui réussit, finalement, ça demande aussi autant d'entraînement, un entraînement comparable à celui d'un sportif de haut niveau.
Ouais, totalement. Honnêtement, totalement. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les combattants, tu vois. MMA, même tout type de combattants. J'avais une salle qui avait ouvert en bas de chez moi qui s'appelait le MMA Factory, tu vois. Donc, j'ai vu un peu l'émergence arriver, Francis Ngannou quand il est arrivé, tout ça, Cyril Gann, tu vois. Et franchement, j'ai un respect énorme pour eux. Parce que c'est vraiment, vraiment hardcore. Et c'est trop bien de s'en inspirer pour appliquer ça dans, dans, dans sa musique, tu vois. Mm-hmm. Moi, j'ai des fois, quand je suis en période de studio et tout, je suis beaucoup plus chill sur la partie sport et tout, parce que je suis en créa, donc on finit tard. Mm-hmm. Tu vois, tu connais, on tease, on est là-dedans, on va pas se mentir. Mais par contre, c'est vrai qu'avant chaque show, mm-hmm. avant chaque clip, avant chaque truc, je me fais des grosses sessions, ouais, de fou. Je suis grave là-dedans. Ça me permet de me sentir bien, en fait, de me sentir mieux, tu vois, vraiment. C'est une très bonne thérapie aussi, le sport, grave.
Tu sais qu'on a un rituel pour finir,
yes,
qui consiste à passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier.
Yes.
Quel serait le message que tu aurais à passer, Husky ?
Le message que j'aurais à passer, c'est ne laissez personne vous dénigrer, vraiment, à 200%. Et si là, quand vous êtes en train d'écouter ma voix, c'est dur, ne lâchez pas. Ne lâchez surtout pas et la lumière va venir, tout simplement.
Merci beaucoup, Husky. C'était un plaisir de te recevoir.
Merci
à nouveau,
à toi.
À la maison.
Merci à vous, merci à toute l'équipe
pour, yes,
cette émission légendaire.
C'était un bonheur de te recevoir. La famille, n'oubliez pas, Noura disponible. Petit bijou d'album. Et je vous donne rendez-vous, bah, comme à l'habitude, la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue avec Husky, au cours de laquelle on s'est raconté plein de choses formidables. Parce qu'il est formidable. Et comme à l'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille, one love Husky.
Merci Juliette.
Ils veulent entrer dans ma tête. Pour mieux savoir ce qui me paralyse, je pensais maîtriser le temps, rien ne s'est passé comme prévu, de la haine que je canalise. Y'a tellement de choses qu'ils veulent pas que tu saches. Ils restent à côté au cas où ça marche. Faut que j'achète un Glock au cas où ça part. Garde tes salames, t'étais où ça date. Ils espèrent que Bouba va me clasher. Ils espèrent que la belle va me lâcher. Si je les écoutais, je serais déjà perché. Au PMU du quartier, en cherchant réponse, j'ai trouvé Noura. Ma petite sœur que je n'ai jamais vue, faite. Que le projet brille à sa place, qu'il ramène lumière que je n'ai jamais eue. Ils veulent que tu fasses ce que tu faisais avant. Mais moi comme SD, j'encule la vie d'avant. Mais je sais même pas si je préfère celle de maintenant. Tu veux tuer S, prends ton ticket, attends. J'ai 10 000 questions comme Nesbill, 10 000 questions quand je respire, 10 000 questions, faut que je reste libre. Ils me détestent, plus je persiste. J'ai des visions comme Shaman, guitarisé comme Chapman. Elle veut un S qu'un Batman, logo dans le ciel comme Batman. Cerveau des couilles en cas de pépin, savent pas si je suis russe ou tunisien. Ils disent que tu dois faire des gradins en rallumant l'argent du matin. Pirate navigue parmi les requins. Est-ce que je vais prendre toute la lumière si je t'éteins? Est-ce qu'elle t'aime vraiment ou est-ce qu'elle te détient? Est-ce que tu te sens récompensé quand tu fais bien? Pourquoi quand tu traînes avec Urine tu détends? Je pourrais jamais ralentir, je pourrais jamais leur mentir. Y'a toute cette pression qu'on doit fuir. Y'a beaucoup de lésions qu'on doit lire. Ils veulent que tu fasses ce que tu faisais avant. Mais moi comme SD j'encule la vie d'avant. Mais je sais même pas si je préfère celle de maintenant. Tu veux tuer S, prends ton ticket, attends. J'ai 10 000 questions comme Nesbill, 10 000 questions quand je respire, 10 000 questions, faut que je reste libre. Ils me détestent, plus je persiste. J'ai des visions comme Shaman, guitarisé comme Chapman. Elle veut un S qu'un Batman, logo dans le ciel comme Batman.